Chez vous, il y a une pièce où vous n'allez jamais. Bah, c'est pas le grenier, parce que le grenier, on y monte régulièrement pour monter les décorations de Noël, et puis pour aller les récupérer l'année suivante. Je parle de la cave. Le coin un peu derrière la chaudière, il y a un espèce de compteur électrique. Ce truc gris moche avec la petite roue qui tourne ou l'écran, ça dépend l'année de la maison. Vous y allez jamais, et c'est parfaitement rationnel. D'abord parce que derrière la chaudière, c'est pas très intéressant. Et puis en plus, eh bien, on n'a pas vraiment besoin d'y aller. Alors, au rez-de-chaussée, la lumière s'allume quand vous appuyez sur l'interrupteur, la télé fonctionne, le frigo ronronne, tout va bien, la maison fonctionne. Pourquoi est-ce que vous iriez ramper derrière une chaudière pour regarder combien ça va vous coûter à la fin du trimestre? Donc vous descendez quand on vous demande de relever les chiffres du compteur. Et en général, ça vous fait pas plaisir. Et à chaque fois que vous descendez, une fois par mois ou par trimestre, vous posez toujours la même question. Est-ce que ce truc fonctionne vraiment ou est-ce qu'il est manipulé par votre fournisseur d'électricité? Eh ben, à Wall Street, c'est exactement pareil. Au rez-de-chaussée, tout va bien, le marché a passé la semaine à attendre une seule chose, le rapport sur les chiffres de l'emploi américain, ce qu'on appelle communément les NFP. On a donc eu 162 000 créations de postes pour le mois d'août, le triple de ce que les économistes attendaient, chômage à 4,1%, stable, voilà la nouvelle que le marché a gardée. Et la seule nouvelle, et il l'a tournée dans tous les sens pendant 8 heures, et encore ce matin. On saluera donc encore une fois la vision des économistes qui se sont complètement vautrés sur les attentes. À moins que ce soit le BLS qui a complètement foiré son calcul, ce qui est également hautement probable. Et pendant qu'on analysait ça au microscope, en pensant que ce chiffre allait nous donner la réponse sur la hausse des taux de septembre ou pas, à la cave, il se passait ceci. La dette fédérale américaine a largement franchi les 40 000 milliards de dollars. Et maintenant, on est même carrément largement en dessus. Le 30 ans américain vient de vivre son pire début de mois de septembre depuis 2006. Le 10 ans britannique plutôt est au plus haut depuis 2007. Le 10 ans français depuis 2008. L'allemand depuis 2011. Le japonais depuis 1996. Le diesel américain a battu son record absolu en termes de prix au gallon. Le gaz européen est au plus haut depuis 3 ans. Et Washington et Téhéran se foutent toujours sur la gueule dans le détroit Trump. Oui, parce qu'il a été renommé, souvenez-vous. Le SMI, lui, a terminé la semaine en baisse de 0,03%. Ma thèse de la semaine tient donc en une seule phrase. Le marché a traité les rendements obligataires comme un détail technique, alors que c'est la seule chose qui ait vraiment bougé cette semaine. Et la question qui compte n'est plus de savoir ce que la Fed fera le 16 septembre. La question, c'est de savoir qui va acheter tout ce papier que les gouvernements essaient de nous fourguer en masse pour satisfaire leur train de vie dispendieux. Oui, parce que cette semaine, pour la première fois, on a vu ce qui se passe quand un État et une entreprise font la manche au même endroit, le même jour, avec le même besoin. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 5 septembre 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors on va reprendre la semaine dans l'ordre parce que c'est la seule façon de comprendre pourquoi le baril a pris près de 9% en 5 séances. Lundi, après que Washington nous a expliqué qu'on était passé à la guerre économique, les forces américaines ont bombardé deux lanceurs de roquettes iraniens sur l'île de Larak. Et Larak, c'est dans le détroit. Pas à côté, c'est dedans. L'Iran a donc riposté le même jour sur des cibles américaines en Jordanie et aux Émirats. Le Brent prend 2,71% et repasse au-dessus des 90 dollars. Mardi, deuxième salve américaine de grande ampleur et puissante. Et pendant que les deux camps s'échangent des communiqués de bravoure, deux pétroliers sont touchés par des projectiles d'origine inconnue. Alors, qu'ils sortaient du détroit. Origine inconnue, hein, dans un détroit où il n'y a que deux belligérants. Le WTI se prend donc plus de 5% à la hausse durant cette journée de mardi. Mercredi, troisième jour consécutif de frappe, Téhéran jure de briser les États-Unis. Et là, coup de théâtre à peu près aussi crédible qu'un chèque en bois, Xi Jinping fait savoir que la Chine est prête à aider la région à assurer la sécurité de la navigation. Le pays qui achète le pétrole iranien avec une remise que même Aldi n'oserait pas afficher se propose comme garant de la sécurité maritime. Le gaz européen passe au-dessus des 75 euros, le mégawattheure du jamais vu depuis janvier 2023. Jeudi, l'Iran vise des bases américaines au Koweït et aux Émirats, et Bessent annonce fièrement que l'Union européenne a officiellement rejoint son opération économique Outcast. comme s'ils avaient le choix, les Européens. Vendredi, le Brent clôture à 95,85$, en hausse de 8,8% sur la semaine. Le WTI à 91,22$, en hausse de 9,9%, les deux au plus haut depuis 3 mois. Maintenant, prenons un peu la mesure de la chose, parce que les pourcentages ne veulent pas dire grand-chose. Hein. Avant la guerre, le détroit d'Ormuz laissait passer 20 millions de barils par jour. Aujourd'hui, selon les analystes qui comptent les bateaux, on est plutôt autour des 10 millions. C'est le plus haut depuis la mi-juillet. Donc, ça remonte, mais ça reste quand même la moitié. Ormuz n'est pas fermé, Ormuz est à moitié ouvert. C'est le tunnel du Gotthard sur lequel on aurait fermé une voie sur deux sans le dire à personne. Vous connaissez la suite, la file se forme, elle se résorbe pas, et le prix du passage monte pour ceux qui veulent passer d'abord. C'est tout ce que raconte le baril à 96$. C'est pas une pénurie, c'est un bouchon. Alors on va juste faire une petite pause. Vendredi, le président des États-Unis a qualifié cette guerre de « small potatoes ». En gros, pour lui, c'est que dalle. Il minimise la chose pour ne pas que ses compatriotes le prennent mal à 2 mois des midterms. Je cite Trump, hein, « Je l'appelle un conflit militaire parce que c'est des petites patates pour nous, c'est pas un grand truc ». Bah, je vous l'avoue, la phrase, elle donne beaucoup mieux en anglais. Mais bon, on n'en est pas là. La veille, carrément, son vice-président avait refusé d'employer le mot « guerre », et l'avant-veille, son secrétaire du commerce, lui, avait carrément affirmé qu'aucun soldat américain n'était mort dans ce conflit, avant de devoir préciser le lendemain qu'il s'était mal exprimé. Il y en a quand même eu 18, c'est pas un chiffre contesté, c'est le chiffre officiel, et le président l'a lui-même répété vendredi en expliquant que c'était beaucoup moins qu'au Vietnam. Ce qui est vrai, c'est même la définition du réconfort, hein, chercher une guerre où il y a eu plus de morts. Et pendant qu'on nous expliquait tout ça, le diesel américain a battu son record absolu de tous les temps à 5,85$ le gallon, dépassant largement le pic de juin 2022. Ça, en revanche, personne n'en parle à la Maison-Blanche, ça ferait mauvais genre. Surtout à 2 mois des midterms. Et surtout quand on avait promis de ramener le gallon à 2$ et l'inflation à 2% dans la campagne électorale. Et puis alors, vendredi à 14h30, on a vécu le grand moment de la semaine, c'est celui qu'on attendait depuis une semaine, les chiffres des NFP pour le mois d'août. 162 000 créations d'emplois. Le consensus tablait sur 53 000, donc 3 fois plus. Et par-dessus, on révise à la hausse, juin et juillet, de 55 000 postes combinés. Le mois de juillet, qui affichait une perte de 23 000 emplois, devient un gain de 21 000, chômage stable à 4,1%. On se fout de nous, c'est tout simplement inouï. Réaction immédiate, les probabilités d'une hausse des taux en septembre qui était tombée à 49,4% jeudi soir remontent à 58% vendredi. Un stratège vous a expliqué avec élégance qu'un rapport aussi fort ne donne pas à la Fed l'argumentaire pour pouvoir rester en pause. Le même stratège qui avait prévu seulement 53 000 créations d'emplois. Voilà, c'est globalement ce qu'on a retiré de ces chiffres. L'emploi va super bien, donc on ne peut pas rester sur pause en septembre. En tout cas, on n'a pas d'excuse pour le faire. Et le marché, ben lui, il a fini en baisse. Hein. Point final d'une semaine qui n'aura pas servi à grand-chose, si ce n'est à faire monter le pétrole. Pourtant, il y avait quand même des trucs à dire hein, sur ces chiffres de l'emploi. À commencer par le fait qu'ils disent exactement l'inverse que les chiffres de l'emploi de l'ADP qui sont sortis 2 jours avant. Mais ça, tout le monde s'en fout. Hein. Personne ne se demande ce que le BLS prend comme produit légaux pour arriver à des résultats aussi diamétralement opposés. Quelque part, il y en a un qui doit mentir. Mais bon, notons quand même que sur les 162 000 emplois créés au mois d'août, 59 000 reviennent à des bars et des restaurants, sachant que la moyenne mensuelle des 12 mois précédents dans ce secteur était 12 000. C'est 5 fois la normale, et les économistes savent parfaitement pourquoi. La réponse, c'est la Coupe du Monde. Les embauches de serveurs et de barman, que tout le monde attendait depuis le début de l'été, ont fini par apparaître dans les chiffres, tout d'un coup, dans le mois d'août, comme c'est arrangeant. On peut donc largement dire que ces 59 000 emplois créés pour la Coupe du Monde ont probablement été supprimés dès que Messi a quitté la pelouse en pleurant. On en reparlera donc en octobre. Vous ajoutez à ça 42 000 postes dans l'éducation publique qui ne font que compenser les 50 000 postes perdus dans le même secteur au mois de juillet. Perte dont tous les économistes disaient déjà à l'époque que c'était un artefact de calendrier scolaire. 101 000 sur 162 000 sont des jobs bricolés et temporaires qui sont dus à une compétition de foot magouillée par un pote de Trump et des vacances scolaires pour les profs. Des serveurs de bar et des enseignants qui reviennent après être partis sur le papier, des serveurs qui sont probablement déjà repartis et des profs qui seront en burn-out au mois de novembre. Alors, soyons honnêtes 3 minutes, le rapport n'est pas mauvais, la participation remonte, le sous-emploi tombe au plus bas depuis 15 mois et les heures travaillées augmentent. Donc c'est pas un chiffre truqué, C'est un chiffre qui est simplement mal lu. Et regardez ce que le marché a fait de sa semaine avec ça. Vendredi dernier, Warsh parlait le langage des faucons à Jackson Hole. La probabilité d'une hausse est passée de moins de 40% à plus 65% en 3 jours. Jeudi, un gouverneur nommé Waller dit qu'il pourrait soutenir une pause si l'inflation progresse vers 2%. Phrase parfaitement banale, assortie d'un « mais si l'inflation ressort plus élevée, j'envisagerai une hausse ». Phrase que personne n'a retenue. Fin de la phrase que personne n'a retenue. Ou que personne n'a voulu entendre. Et ça s'écroule à 50%. Vendredi, l'emploi fait remonter les probabilités à 58%. Bref, autant les chiffres du BLS ne veulent plus rien dire, j'ai d'ailleurs arrêté de croire qu'ils sont vrais depuis longtemps, autant je me demande ce que peut bien valoir ce sondage à la noix sur les avis des uns et des autres et sur ce que va faire la Fed dans 11 jours. L'emploi, c'est fait, on arrive donc au vrai sujet de la semaine, celui dont on parlera encore probablement dans 6 mois. Le 10 ans américain a terminé à 4,78% sa semaine, le 30 ans à 5,24%, le 10 ans britannique a touché 5,29% en séance, plus haut depuis 2007, le français à 4,25%, plus haut depuis 2008, le bund allemand plus haut depuis 2011, et le japonais, qui pendant 20 ans était l'obligation la plus ennuyeuse de la planète, est au plus haut depuis 1996. C'est pas le niveau qui compte, c'est la contradiction. Oui, parce que le manuel est très clair là-dessus. Quand une banque centrale ne bouge pas, la partie longue de la courbe se calme. La Fed n'a pas touché assez tôt depuis 3 baisses fin 2025, et cette semaine, un gouvernement influent a explicitement ouvert la porte à ne rien faire. Et le 30 ans américain vient de vivre son pire début du mois de septembre depuis 2006, en termes de hausse des rendements. Ce que l'obligataire est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que je me fous totalement de ce que Warsh décidera le 16 septembre. C'est aussi simple que ça. La question n'est pas de savoir combien tu me payes. Ma question aujourd'hui en tant que marché obligataire, c'est de savoir qui va acheter tout ce papier qui arrive en même temps sur le marché. Alors, voilà les deux chiffres que j'ai vus que monter nulle part cette semaine et qui sont pourtant la clé de tout. À la fin juillet, la dette obligataire des entreprises américaines atteignait 11 500 milliards de dollars, en hausse de 7% sur un an, et la dette du trésor américain, c'est 19 100 milliards, en hausse de 6,6%. Les deux emprunteurs avancent au même rythme et s'adressent aux mêmes investisseurs. Oui, parce qu'il n'y a pas deux réservoirs d'épargne dans le monde, un pour les États et un pour les entreprises. Il y en a un seul, c'est le même. Les caisses de pension, les assureurs, les fonds souverains, les banques centrales asiatiques, les autres banques centrales, c'est la même poche, le même porte-monnaie. Et depuis 18 mois, deux clients se présentent systématiquement au même guichet, l'État américain, qui finance un déficit qui est devenu structurel, et l'industrie de l'intelligence artificielle qui finance des data centers en béton, en cuivre et en transformateurs. Vous voulez la comparaison de la semaine ? La voilà. Jeudi 3 septembre, Nvidia annonce le rachat de la plateforme franco-américaine Hugging Face pour presque 13 milliards. Le même jeudi, à quelques heures d'intervalle, la France emprunte 6,3 milliards d'euros sur 10 ans lors de son adjudication mensuelle. Une entreprise de semi-conducteurs a signé en une matinée un chèque représentant environ le double de ce que la 6e économie mondiale a emprunté ce mois-là sur 10 ans pour faire tourner ses hôpitaux, ses écoles et ses trains. Et surtout pour créer le parc Dragon Ball Z qui tient tellement au cœur de Manu. Et les deux vont chercher donc l'argent dans la même poche, plus ou moins au même endroit. Et le résultat, on le voit dans le prix. La France a emprunté jeudi à 4,23 sur 10 ans. En août, elle empruntait à 3,90. 33 points de base de plus en 30 jours sur une dette qui pèse 117% de son produit intérieur brut. Tout ça avec une croissance à zéro, mais c'est pas grave parce que c'est toute la faute au réchauffement climatique et aux incendies de forêt. Si, c'est le ministre de l'économie qui l'a dit. Et si on demande à Gabriel Attal, le clown qui veut prendre la place du président, c'est toute la faute des Russes. Et puis c'est pas facile de trouver du pognon. On vient d'ailleurs d'apprendre que le fonds souverain norvégien, le plus gros du monde accessoirement, propose de réduire ses investissements en obligations d'État. Environ 75 milliards de dollars de bons du trésor américain en moins. Bah oui, messieurs, dames, les politiciens, à force de faire de la merde, ça commence à se voir. Ce à quoi d'ailleurs Scott Bessent a répondu, ils cherchent juste à améliorer leur rendement avec d'autres actifs américains, des actifs comme Fannie Mae, Freddie Mac ou Ginnie Mac, les trois noms qui ont fait la crise de 2008. Donc vous avez le plus gros investisseur institutionnel de la planète qui sort des bons du trésor, et c'est une bonne nouvelle parce qu'il va aller acheter du crédit hypothécaire à la place. C'est comme si on vous annonce que votre locataire ne paye plus le loyer, mais par contre il a promis de tondre le gazon pendant l'hiver. Bon, entre vous et moi, il faut quand même pas croire que je parle que de choses déprimantes, hein, parce que dans le rapport de vendredi, il y a quand même une donnée qui mérite qu'on s'y arrête, sans ironie, l'industrie manufacturière américaine a créé 16 000 postes en août, 58 000 depuis son point bas de décembre 2025, la construction 22 000 rien que sur le mois d'août. Et ça fait 20 ans qu'on nous raconte la désindustrialisation américaine comme une loi de la nature, et depuis 9 mois, ça remonte. Pas spectaculairement, mais ça remonte, et pour une raison très concrète, l'intelligence artificielle, dont tout le monde parle comme d'un truc immatériel qui vit dans les nuages, se construit en réalité avec du béton, du cuivre, des tuyaux de refroidissement, des transformateurs et des types en gilet jaune. On bâtit la plus grosse infrastructure industrielle depuis les autoroutes des années 60. Et ça, ça emploie des gens qui n'ont pas fait Stanford. C'est d'ailleurs peut-être la seule promesse que Trump a tenue depuis qu'il est au pouvoir. Dans le même rapport, à trois lignes de distance, le secteur de l'information a perdu 23 000 emplois en août, dont 8 000 dans l'infrastructure informatique, le traitement de données et l'hébergement web. Sur 12 mois, ce secteur perd en moyenne 8 000 postes par mois. Donc si je résume, on embauche des maçons pour construire des bâtiments dont la fonction est de remplacer les gens qui travaillent dans l'information et dans l'Internet. Mais il y a un truc dont personne n'a parlé cette semaine, et c'est exactement pour ça qu'il faut en parler aujourd'hui. Le gaz. Le contrat de référence européen, le TTF néerlandais, a dépassé 75 euros le mégawattheure mercredi. C'est son plus haut niveau depuis janvier 2023. Et le vrai problème, c'est même pas le prix. C'est que les réserves européennes de gaz sont basses pour cette période de l'année, alors qu'on entre dans la saison où il faut justement remplir, avant l'hiver. Tout le monde regarde le pétrole parce que le pétrole fait des étincelles, c'est fun, et des pétroliers sont touchés par des projectiles d'origine inconnue. Le gaz, lui, fait pas de bruit, il monte en silence, dans un contrat à terme que personne ne suit, et il n'a d'effet sur votre vie que quelques mois plus tard. On en reparle donc cet hiver, quand vous descendrez à la CAF pour aller relever le compteur. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui relie tout ça ? Revenons deux secondes à la cave. Il y a deux façons parfaitement défendables de raconter cette semaine. Histoire numéro 1, celle du rez-de-chaussée. L'économie américaine crée 3 fois plus d'emplois que prévu. L'industrie embauche, le PIB suisse accélère, l'inflation suisse est la plus basse du monde développée et le SMI termine à 3 points de son plus haut. Les taux montent parce que l'économie est forte, ce qui est plutôt bon signe. Le pétrole est cher à cause d'une guerre et les guerres, ça se termine, tout va bien. Vous pouvez sortir aller jouer au golf. Histoire numéro 2, celle de la cave. Le coût de l'argent est au plus haut depuis 15 à 30 ans dans tous les pays développés simultanément, alors qu'aucune banque centrale n'a bougé ses taux, pour le moment. Mais ça va venir. La dette fédérale américaine vient de franchir les 40 000 milliards, le plus gros fonds souverain du monde envisage d'en sortir, et deux emprunteurs colossaux courent vers le même guichet à la même vitesse. Là, ça va beaucoup moins bien, et ça se couvre dehors, et vous avez perdu toutes vos balles. Les deux histoires sont vraies, et elles se déroulent maintenant, juste sous nos yeux. Mais pour l'instant, on préfère la première, on préfère se dire que c'est moins pire, et que ça va bien se passer. Et tant qu'on y croit que l'histoire numéro 2 ne fait pas assez de bruit, ça tiendra, et on va même aller chercher les 8000 avant la fin de l'année. Après, on ne sait pas ce qui pourrait nous faire changer le narratif. On saura sûrement juste le moment venu. On passe rapidement aux performances de la semaine. Alors, comme vous le voyez, eh bien, le pétrole a donc explosé cette semaine, plus 9,38% selon où on se place. Le Brésil prend 5,4%. Les semi-conducteurs s'en sortent toujours bien avec 2,32% sur la semaine. Le Bitcoin grimpouille quand même. Le Nasdaq termine dans le vert. Le S&P 500, pas de beaucoup, mais dans le vert aussi. Et vous voyez qu'au milieu de l'écran, le SMI est en baisse de 0,03% sur la semaine. Le Dow Jones est en baisse, donc on voit qu'il y a un peu un recul sur les défensifs. Le CAC 40 perd 1,46%. Le DAX perd 1,97%. Et le Nikkei perd plus de 2% sur la semaine. Donc, deux salles, deux ambiances quand même sur les performances de cette semaine. Du côté de la perf du SMI, vous voyez que Novartis est le champion de la semaine, on y reviendra dans les vedettes tout à l'heure, avec 4,72% sur la semaine et un mardi exceptionnel. Et puis Partners Group, qui a également publié des chiffres qui n'ont pas plu, qui perd 9,39% sur la semaine, donc à l'autre bout du classement. À côté de ça, on verra que Richemont perd 4,68%, le luxe a pas mal souffert cette semaine, et que les assurances s'en sortent pas mal, évidemment, vu la tronche des taux à l'heure actuelle. La performance hebdomadaire du SMI est de moins 0,03%. Moins 0,03. 4 séances de remontée patiente pour effacer un lundi tout pourri. Et à l'arrivée, il manque encore un poil pour finir dans le vert. Je vous avoue, j'ai connu des semaines un poil plus excitantes. On attaque donc avec les vedettes de la semaine et on commence tout de suite par Novartis. Gros mouvement de la semaine, c'était mardi. Novartis prend 6,3% en une séance. C'est énorme pour un poids lourd de cette taille et c'est le titre qui a sauvé l'indice ce jour-là. Le SMI a passé la moitié de la séance dans le rouge et c'est 9 artistes à eux tout seuls qui l'ont redressé. Le groupe Renan a revendiqué le succès de 2 programmes cliniques avancés contre la sclérose en plaques, une vraie bonne nouvelle. Mais maintenant, si vous ouvrez le communiqué de presse et que vous allez un peu plus loin que les gros titres, eh bien, vous verrez que le même jour, dans le même document, Novartis annonce la suspension d'une série d'autres volets d'études moins avancés portant sur une thérapie cellulaire. Le motif, le décès des patients. Deuxième vedette, c'est Nestlé, et celle-là, c'est le poids lourd discret, hein, celui qui fait pas les gros titres, qui pèse pas sur l'indice. Nestlé n'a quasiment pas bougé de la semaine. Un dixième par-ci, un point de baisse jeudi, un demi-point vendredi. Vu de l'extérieur, rien du tout. Le titre est un aimant collé sur la porte du frigo. Complètement immobile. Sauf que si vous alignez les annonces de la semaine, eh ben, ça donne quand même pas mal d'informations, pas mal de choses, puisque Nestlé a vendu son activité grand public de vitamines et de compléments alimentaires à un fonds américain pour $1 milliard. Nestlé annonce un investissement de 310 millions de francs au Brésil. Nestlé se dit intéressé avec un partenaire de private equity par le rachat d'une marque britannique de pizza haut de gamme et le directeur de Nestlé Suisse déclare à la presse alémanique que les chocolats caillés pourraient partir à l'étranger. En 5 jours, on vend des vitamines, on achète des pizzas, on investit au Brésil et on envisage d'exporter le chocolat de Brock. Alors, je dis pas que c'est incohérent. Chaque décision prise séparément se défend très bien, c'est pas le problème. Je dis que quand une société de cette taille fait 4 annonces stratégiques en une semaine sur 4 continents et 4 catégories de produits et le titre ne bouge pas d'un centime, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire que le marché a cessé d'attendre une direction sur Nestlé. Il a rangé Nestlé dans la case obligation qui vend du café, c'est clairement devenu ennuyeux, elle n'arrive pas à rebondir et ça se ressent. Troisième vedette de la semaine, c'est l'UBS, le dossier politique qui n'en finit plus, celui qui n'a fait bouger le titre que d'une manière et qui a occupé tout le pays. Vous connaissez le feuilleton, depuis le rachat de Crédit Suisse, la Suisse discute des fonds propres qu'on va imposer à la banque qui reste, le Conseil fédéral avait proposé un tour de vis sévère, la banque a passé 2 ans à expliquer que ce serait la fin du monde, et lundi dernier, une commission parlementaire a laissé entendre qu'elle penchait pour un compromis, une version que l'Association Suisse des employés de banque a elle-même qualifiée de plus supportable. Donc, victoire d'étape, le pire est écarté, on en a déjà parlé la semaine dernière, la banque a obtenu ce qu'elle demandait, le lendemain, le titre a perdu 2,5%. L'explication la plus probable et la plus ennuyeuse, c'était mardi. Hein. Le marché entier baissait sur la reprise des frappes militaires et les bancaires prennent toujours cher les jours de tension. Julius Baer aussi a abandonné d'ailleurs ce même jour 2,4% en même temps. Mais il y a une lecture un peu plus intéressante. Ça fait plus de 2 ans que ce dossier génère des titres de journaux, des auditions, des rapports et des heures de télévision. Et le jour où il se résout dans le sens favorable à la banque, le marché n'a même pas levé les yeux. C'est le propre des feuilletons institutionnels suisses. Ils sont tellement longs que quand la fin arrive, tout le monde est déjà passé à autre chose. Et puis alors, le fonds de classement de la semaine pour la forme, Partners Group s'est fait défenestrer de plus de 7% mardi, 9% sur la semaine, sur des résultats semestriels dégueulasses et des perspectives qui n'ont convaincu personne. Dans le private equity coté, en ce moment, avoir des perspectives molles quand l'argent coûte 5% par an, c'est pas un mauvais semestre, c'est un modèle d'affaires qui est en train de prendre l'eau. Et maintenant, on passe donc au vrac de la semaine. Fontobel a annoncé qu'elle délocalisait son siège à Bâle, dans le canton de Zoug, une banque privée zurichoise qui quitte Zurich pour des raisons fiscales. C'est intéressant. Avis a placé 2 blocs de 500 000 actions existantes représentant 1,4% du capital. L'acheteur a un fonds institutionnel de long terme dont l'identité n'est pas révélée. Traduction, quelqu'un a acheté, on ne sait pas qui, et on vous a mis les mots long terme dans le communiqué de presse pour que vous ne posiez pas la question. Remont d'énergie s'envole sur des résultats semestriel qui décoiffe les attentes, recettes et rentabilité comprises, un énergéticien vaudois qui publie un semestre exceptionnel la semaine précise où le baril prend 9%, il n'y a pas de mystère, il y a une facture et vous n'êtes pas du bon côté. Bossart a annoncé la nomination d'un nouveau directeur financier à partir de mars 2027, le titre n'a pas bougé d'un centime, et IVF Hartmann a annoncé la nomination d'une nouvelle directrice financière au 1er mars 2027, 2 sociétés cotées qui annoncent chacune un directeur financier qui entrera en fonction le même mois dans 18 mois. Quelque part en Suisse, il y a un cabinet de recrutement qui a fait une très bonne semaine. Bioversis s'envole après avoir obtenu de la FDA une procédure d'homologation accélérée pour son antibiotique BV100, ça c'est la vraie très bonne nouvelle. Les antibiotiques, c'est le segment le plus vital et le moins rentable de toute la pharmacie mondiale, celui que les grands groupes ont abandonné parce qu'on ne marche pas sur un médicament qu'on prend 5 jours dans sa vie. Vaudoise Assurance a publié des résultats semestriels en hausse. Dormakaba s'est lancé dans les grandes manœuvres, cession, location de son siège de Rumlang et la rationalisation de la structure de l'actionnariat. À l'issue d'un exercice pénalisé par l'échange, le spécialiste des accès sécurisés au bâtiment a vendu son bâtiment pour se le relouer. Il y a des semaines où l'ironie fait le travail toute seule. Accelleron a chuté après avoir fortement progressé la semaine d'avant. Dans le même temps, une banque d'affaires a relevé son objectif de cours de 75 à 83 francs, tout en maintenant sa recommandation à conserver. Donc ça vaut plus cher que ce qu'on pensait, mais n'en achetez pas plus quand même. Hein. Varia US Properties a dévoilé des résultats semestriels marqués par un repli significatif des principaux indicateurs américains. C'est une société suisse qui détient de l'immobilier résidentiel aux États-Unis au moment où le taux hypothécaire à 30 ans est passé de moins de 6 à près de 7% depuis février. Il n'y a rien à démolir dans ce communiqué, il n'y a qu'à lire le 30 ans. Swatch a gagné son procès contre Samsung sur des contrefaçons de cadrans de montres numériques. Le géant sud-coréen devra verser 11,6 millions de dollars à l'horloger biennois. Une goutte d'eau dans la mer pour Samsung qui vend des puces mémoire de l'autre côté. Kuehne+Nagel a vu une banque américaine abaisser sa recommandation à sous-pondéré, le tout en relevant son objectif de cours. Deuxième fois de la semaine, le titre va monter, mais surtout n'en achetez pas. Swiss Life a livré des résultats semestriels meilleurs qu'attendus et a annoncé le même jour un programme de rachat d'actions et une vague de suppression de postes. Et pour finir, vendredi, les trois plus fortes baisses du SMI étaient Sando, Galderma et Lonza, motif indiqué par le résumé de la journée, je cite, sans information particulière. Parlons un peu d'économie en Suisse. L'inflation suisse au mois d'août, 0,8% sur un an, pendant que la zone euro est à 3,3%, son plus haut depuis 3 ans, et les États-Unis à 3,7%. On a la monnaie la plus solide, l'inflation la plus basse, le PIB qui accélère de 1,5% et le taux de référence hypothécaire reconduit inchangé. Bref, on a les meilleurs et tout va bien et on se tape dans le dos. Maintenant, on va les gratter un petit peu à l'intérieur du chiffre. Cette hausse de 0,8% est presque entièrement due à l'énergie. Le mazout a progressé de 13,8% sur le seul mois d'août et de 53,1% sur un an. L'essence est à plus 15,8%, le diesel plus 23,3%. Faites l'exercice vous-même ce week-end avec votre dernière facture de citerne. Le même remplissage, exactement les mêmes litres au même endroit, vous payez une fois et demie ce que vous payiez l'an dernier. C'est pas une projection, c'est de l'arithmétique sur un papier que vous avez dans un tiroir. Comment peut-on avoir le mazout à plus 53 et l'inflation à 0,8? Parce que l'énergie pèse que dalle dans le panier suisse et que le franc absorbe une partie du choc en montant. C'est vrai, c'est mécanique et c'est ce qui nous protège depuis des années. Mais la statistique dit que la vie n'augmente pas et votre citerne est dit le contraire. Le jour où le franc arrête d'absorber, c'est pas la statistique qui viendra s'excuser. Il y a, cette semaine, trois anomalies qui, prises séparément, ne veulent rien dire et qui, prises ensemble, racontent quelque chose qui est un petit peu quand même inconfortable. Tout d'abord, parlons de l'or. Le fait, c'est que l'or est repassé au-dessus des 4 500 $ l'once durant la journée de jeudi. Et ce que ça devrait signifier, c'est rien de spécial. L'or monte quand la peur monte et il y a une guerre, donc c'est plutôt logique. Mais ce que ça signifie vraiment, le manuel dit que l'or déteste les taux élevés. L'or ne verse aucun intérêt, aucun dividende, il ne fait rien, il est juste là, sans bouger. Donc quand une obligation d'État vous paye du 4,78 par année, détenir un métal qui ne paye rien vous coûte 4,78% par année. Dans cette configuration, l'or devrait baisser. Il baisse pas, il monte. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui préfère un métal qui ne rapporte rien à un papier qui rapporte 5%. Et ce quelqu'un-là n'achète pas un rendement, il achète une assurance contre le papier lui-même. Numéro 2, le PCE que personne n'a lu la semaine précédente. Hein, le 26 août, deux jours avant Jackson Hole, le Bureau of Economic Analysis a publié l'indice PCE de juillet, 3,7% en rythme annualisé, 3,3% pour la version core, qui exclut l'alimentation et l'énergie, publié, diffusé et enterré sous le discours de Warsh le surlendemain. Ce que ça devrait signifier, rien de neuf, on savait que l'inflation était haute. Mais ce que ça signifie vraiment, le PCE est l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, et c'est pas un indicateur parmi d'autres, c'est celui sur lequel elle a construit sa cible de 2%. Et cet indicateur est au-dessus des 2% depuis 65 mois consécutifs. 65 mois, 5 ans et demi, un enfant né le mois où le PCE est passé au-dessus de la cible entre à l'école primaire cet automne, et l'indicateur n'est jamais redescendu depuis. Alors la question honnête qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une cible qu'on rate 5 ans et demi d'affilée, est-ce que c'est encore une cible ou est-ce que c'est juste devenu un élément de décoration dans un communiqué de presse ? Et puis numéro 3, évidemment, le yen. Le fait, c'est qu'en 2 jours, le yen a pris près de 3% face au dollar. 3% en 2 jours sur une devise majeure, c'est pas un mouvement, c'est un accident. Et dans le même temps, le taux à 10 ans japonais a touché son plus haut depuis 1996. Ce que ça devrait signifier, c'est que la Banque du Japon va monter ses taux en septembre. Et Tokyo est peut-être intervenu pour soutenir sa monnaie, et les deux sont probablement vrais. Ce que ça signifie vraiment, c'est que pendant 20 ans, le Japon a été le distributeur automatique du monde entier, le bancomat de la planète. On empruntait du yen pour rien, et on le vendait, on achetait des actifs qui rapportaient beaucoup plus d'argent. Ça s'appelle le carry trade, c'est la machine qui finance la moitié du levier de la planète, et elle ne fonctionne qu'à une seule condition, que le yen ne monte pas. C'est une mécanique que j'ai vu fonctionner en 98, quand le yen a pris quelque chose comme 15% en 3 jours et qu'un fonds nommé LTCM, dirigé par 2 prix Nobel, a fait sauter la moitié du système. J'ai revu ça le 5 août 2024, quand la Banque du Japon a monté ses taux d'un misérable quart de point et que le Nikkei s'est pris 12% dans la gueule en une seule séance. Elle fonctionne remarquablement bien jusqu'au jour où quelqu'un doit rembourser en yens ce qu'il a emprunté en yens. Et mercredi, Tokyo a perdu 2,85% et Séoul quasiment 4% dans la même journée. Pour l'instant, c'était juste un mercredi comme les autres. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que tout va s'effondrer lundi ? Ben non, absolument pas. Pas du tout, mais alors pas du tout. D'ailleurs, lundi, Wall Street est fermé pour cause de Labor Day. Donc même si je voulais vous faire peur, il faudrait quand même que j'attende mardi pour que tout s'effondre. Non, parce que si on regarde un peu tout ça, ce qui va bien, il y a de quoi faire. L'emploi américain se crée largement et dans des secteurs variés, pas seulement la santé, comme depuis 2 ans. Le chômage à 4,1%, c'est du plein emploi dans n'importe quel manuel. Le trafic à Hormuz remonte au plus haut depuis mi-juillet. Et il y a des gens très sérieux, y compris au Trésor américain, qui pensent que le baril sera à 40$ dans 6 mois. Ils ont peut-être raison. Si c'est le cas, tout ce dont je vous parle depuis 30 minutes se dégonfle en 3 secondes. Ce que je dis, c'est autre chose. Je dis que le prix de l'argent a changé partout en même temps dans des pays qui n'ont ni la même dette, ni la même banque centrale, ni la même monnaie. Quand la même chose arrive au même moment à des systèmes indépendants, c'est en général pas une coïncidence. C'est qu'il y a une contrainte commune quelque part. Et cette contrainte, à mon sens, c'est la quantité d'épargne disponible face à la quantité de papier qu'on lui demande d'absorber. De là à dire que c'est fragile, il y a une frontière que je ne franchirai pas, mais je descends à la cave beaucoup plus souvent pour regarder mon compteur qui a 6 mois en arrière. Dimanche, l'OPEP se réunit et devrait laisser sa production d'octobre inchangée. Ça n'a plus beaucoup d'importance quand le goulot d'étranglement, c'est un détroit, le détroit Trump, pompé, ne sert plus à grand-chose momentanément. Lundi, Wall Street sera donc fermé, les bordets. Jeudi, les prix à la production américain. Vendredi, le CPI du mois d'août, le rendez-vous de la semaine, et peut-être même du mois. La semaine d'après, 15 et 16 septembre, la Fed et la BCE se réunissent cette semaine et devraient monter ses taux. Là-dessus, tout le monde est d'accord, ce qui est en général le meilleur moyen de se faire surprendre. 3 choses à surveiller et ce qu'elles nous diront. Tout d'abord, le CPI de vendredi et surtout sa version hors énergie. Si le sous-jacent tient, Warsh a son alibi, il monte les taux le 16. Si ça décélère, on repart pour 6 semaines de débat pour la prochaine hausse des taux. En 2, le nombre de barils qui sortent d'Hormuz, 10 millions par jour aujourd'hui. Si ça remonte vers 15, le baril redescend. L'inflation importée avec, ce serait une excellente nouvelle et je l'annoncerai avec le sourire. En 3, le yen, et s'il continue de monter tout seul sans intervention annoncée, ce n'est pas une histoire de politique monétaire japonaise, c'est que quelqu'un est en train de déboucler une position et ce quelqu'un, il a sûrement des amis. Et puis alors, jeudi, le président américain a publié sur son réseau social un graphique, pas un tweet, hein. Un graphique avec des chiffres dessus. Le graphique montrait le trafic pétrolier dans le détroit d'Hormuz et indiquait 18 millions de barils par jour. Message accompagnateur, c'est proche des 20 millions d'avant-guerre, donc tout va bien, le détroit fonctionne, circulez, il n'y a rien à voir. Les analystes qui comptent les bateaux qui passent, parce que c'est un métier, hein, y a des gens payés pour regarder les transpondeurs toute la journée, situent le trafic autour de 10 millions de barils par jour. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur le chiffre exact, mais aucun, alors absolument aucun, ne trouve 18 millions de barils. L'écart entre le graphique du président et la réalité mesurée, c'est 8 millions de barils par jour. 8 millions de barils qui n'existent que sur l'écran de Donald Trump. Et la semaine d'avant, il avait proposé de renommer le détroit d'Hormuz. Souvenez-vous, hein, nouveau nom envisagé, détroit Trump. Et il a presque raison sur un point, un seul. Vendredi, dans le bureau ovale, entre 2 menaces d'arrêter le commerce avec tous les pays avec lesquels l'Amérique est en déficit si la Fed ne baisse pas les taux, c'est-à-dire à peu près tout le monde, il a lâché ceci. Chaque point d'intérêt coûte 650 milliards de dollars par an à l'Amérique. Le chiffre est faux. Sur 40 000 milliards de dettes, un point, c'est 400 milliards, pas 650. Il s'est trompé de plus de 60%, ce qui, pour un ancien promoteur immobilier, reste quand même dans la marge d'erreur habituelle. Mais l'idée derrière est bonne, et la réalité est pire que ce qu'il raconte. L'Amérique paye aujourd'hui autour de 1100 milliards de dollars d'intérêt par an sur 40 000 milliards de dettes. Faites ta division, ça fait à peu près 3%. C'est le prix de l'argent d'avant, celui des emprunts contractés à l'époque où ça coûtait rien. Et le marché aujourd'hui, il en demande 5, pas loin de 5 en tous les cas. Donc l'Amérique ne va pas payer un point de plus. Elle va remplacer du 2,5, 3 par du 5, tranche par tranche, à mesure que ces vieux emprunts arrivent à échéance et qu'il faut bien les renouveler. Le stock est déjà là, il ne bouge plus, c'est le prix du renouvellement qui monte. Voilà, le compteur de la cave, il s'emballe pas d'un coup, il tourne un peu plus vite chaque année. Alors voilà ce que ça veut dire concrètement pour vous. Votre deuxième pilier détient des obligations, beaucoup d'obligations. C'est même une obligation légale. Une caisse de pension suisse ne peut pas tout mettre en action. Elle doit détenir du papier d'État. Votre troisième pilier, si vous avez pris une solution mixte, c'est pareil. Et le fonds de placement que votre conseiller bancaire vous a vendu au printemps dernier, en vous expliquant que la partie obligataire, c'était la partie sûre, c'est pareil. Ces obligations-là ont été achetées à des taux plus bas qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elles valent moins cher à l'achat. C'est pas une opinion, c'est de la mécanique financière. Et ça se produit exactement au moment où tout le monde vous explique que les taux montent parce que l'économie est forte. Le compteur est à la cave, il tourne, vous recevez la facture une fois par an, au printemps, dans une enveloppe. Voilà, aujourd'hui, on a fait le tour pour ce week-end, donc passez un excellent week-end. Si vous prenez la route ce dimanche, regardez le prix au litre à la station-service et dites-vous que c'est la seule statistique de cette émission que personne n'a réussi à requalifier. On se retrouve samedi prochain et je vous fais une prédiction. On reparlera d'Hormuz, on nous annoncera à nouveau que la paix est proche et il y aura quelque part un graphique avec des chiffres et que personne n'aura vérifié. Et Trump va renommer le Cervin en Mondonald et nous sortir une nouvelle connerie dont il a le secret. Et pour terminer, n'oubliez pas que la dette américaine est de 40 117 milliards. Le 18 août, on a passé les 40 000 milliards. 18 jours plus tard, on est à 40 117. Et en janvier 2027, on passera les 41 000 milliards. En septembre 2008, on a passé les 10 000 milliards de dettes aux États-Unis. En septembre 2017, on a passé les 20 000 milliards. Il a fallu 9 ans pour rajouter 10 000 milliards de dettes. En février 2022, on passe les 30 000 milliards de dettes, 5 ans auront suffi. En août 2026, on a passé les 40 000 milliards, 4 ans et demi plus tard, on accélère encore. Et dans 3 ans, d'après les calculs d'aujourd'hui, on sera à 50 000 milliards. Ça ne veut juste plus rien dire, mais ça va surtout de plus en plus vite avec des taux qui sont bien sûr en train de monter. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage et on s'abonne à la chaîne et on appuie sur la cloche pour ne rien rater de la suite, hein. Comme d'habitude, encore une fois, excellent week-end à tous et à lundi avec un marché US fermé. D'ailleurs, je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais on va trouver. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.